Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as laissé ta parole, cette parole éternelle, vivante et vraie. Nous te prions que tu puisses, au travers d'elle, nous parler et nous aider à grandir et à marcher dans la victoire avec toi. Merci pour cette parole et pour de ce que tu nous l'as donné, Seigneur, par grâce. Que ton saint et merveilleux nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoration. Ça tombe bien, c'est suite à un temps où nous avons pu passer du temps dans la présence du Seigneur, mais aussi nous sommes dans l'année de la louange, hein, l'adoration. Il serait temps de boucler un peu l'enseignement sur ce sujet. Alors, concernant l'adoration, il y a beaucoup de choses à dire. On a déjà évoqué pas mal de choses, en particulier le fait que l'adoration est un sacrifice. Enfin, dans toute adoration biblique, il y a la notion de sacrifice. Et le sacrifice de l'Ancien Testament a changé, puisqu'avant, c'était des sacrifices d'animaux innocents. Aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus, qui est à la base de notre adoration. Mais aussi un sacrifice que nous devons apporter pendant le culte. Et c'est Romains 12, 1 qui nous montre quel est ce sacrifice que nous devons apporter. Je vous exhorte donc, dit l'Écriture, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans le culte que nous apportons au Seigneur, dans le moment d'adoration, eh bien, c'est nos corps, donc notre être tout entier, que nous devons apporter comme sacrifice vivant. Non pas mort, mais vivant. Tel que nous sommes, nous devons venir au Seigneur. Ce qui explique aussi que dans l'Écriture, nous voyons que les verbes d'adoration sont des verbes d'action, pas simplement de parole, pas simplement de chanter, de louer, de parler, mais tout notre corps participe. Et c'est pour ça que nous donnons la liberté dans nos cultes. Il y a des drapeaux, il y a toutes sortes de moyens à votre disposition. Vous avez les mains, vous avez les pieds, vous avez votre corps tout entier, pour adorer le Seigneur. Donc, profitez-en, la danse, Vous voyez, dans la mesure où c'est fait dans l'esprit, il n'y a aucun souci. Bien sûr, si c'est fait pour se montrer, c'est autre chose, mais ça se discerne assez vite, et on est là pour remettre les choses en place. Mais c'est notre corps tout entier. Alors, on va aller un peu plus loin aujourd'hui sur le thème de l'adoration. En dehors du sacrifice, il y a d'autres choses à voir. Et on va voir le but de l'adoration. Quel est le but, hein? On voit ce que ça peut être, l'adoration, mais on va voir le but aujourd'hui. Le but de l'adoration, c'est bien sûr la relation avec Dieu, une relation de communion avec Dieu, mais aussi un but de restauration. Pas uniquement d'adoration, mais de restauration de l'être humain dans sa totalité. Si nous prenons. Et le but de l'adoration, c'est aussi le but de Dieu, le but de l'homme, enfin le but que Dieu a fixé à l'homme. Quel est le but de Dieu? Pardon, je reprends mes esprits. Quel est le but de l'homme? C'est aussi le but de l'adoration. Le but de l'adoration, c'est le but de l'homme que Dieu a assigné à l'homme. Si nous prenons le but de l'homme, il y a un catéchisme de Westminster qui en parle, parce que ça synthétise un petit peu tout ce que la Bible dit sur l'homme. Ce catéchisme dit que le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui pour toujours. Donc il y a plusieurs choses. Il y a glorifier Dieu, magnifier Dieu, honorer Dieu, comme nous l'avons fait ce matin et comme les chants qui ont été bien choisis dans ce registre-là. Ça, c'est un élément du but de l'homme, mais toujours dans la joie, voyez-vous? Et c'est pourquoi aussi, dans nos moments d'adoration, c'est important que la joie s'exprime. Pas uniquement dans l'émotion, bien sûr, l'émotion participe à la joie, mais je veux dire, c'est pas l'émotion qui est la joie. La joie, c'est quelque chose de profond, qui se traduit parfois par des émotions, parfois pas, mais la joie, hein. Et c'est pour ça aussi, c'est bien qu'on exprime la joie après la scène, parce que la joie fait partie, du but de l'homme. Il y en a qui n'aiment pas la joie. La joie, c'est ce qui réjouit, qui donne du sens, qui donne cette profondeur à la vie. Quand il n'y a plus la joie, il y a la dépression, il y a tout ce que vous voulez qui est derrière, toutes les maladies, etc. La joie, c'est quelque chose qui fait partie du cœur, et du cœur de Dieu et du royaume de Dieu. Et C.S. Lewis, il a écrit ce livre, Surprised by Joy, surpris par la joie. C'est son témoignage de conversion, c'est qu'il a rencontré cette joie dans le ciel, qui s'exprime dans le ciel et dans lequel on rentre comme dans une réalité, et qui l'a vraiment frappé en pleine face. Et c'est vraiment le témoignage de sa conversion, qui d'ailleurs est une conversion par la raison, c'est très rare. Mais vous voyez comme quoi la raison n'est pas forcément un obstacle pour accéder à la foi. Donc le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui, de réjouir en Dieu pour toujours, pour l'éternité. Nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur pour toujours. C'est l'adoration avec le Seigneur. Vous savez, l'adoration, on a parfois, le but de l'adoration est parfois un peu mélangé dans notre tête. L'adoration, on pense que c'est pour Dieu. Mais en fait, c'est beaucoup plus pour nous que pour Dieu. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Est-ce que c'est pour flatter son ego? Est-ce que Dieu veut flatter son ego? Parce qu'on l'adore, etc. Vous croyez ça? Non. Mais parfois, on a l'impression que c'est ça. On adore pour Dieu, comme si on va le flatter, un peu comme si on va adorer Nicolas Sarkozy ou je ne sais pas quoi, pour flatter son ego, quoi. Je veux dire, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de notre adoration pour être flatté. Il est Dieu, il est au-dessus de tout, il est de tout autre. Donc, ce n'est pas du tout pour flatter l'ego de Dieu, c'est vraiment justement pour se détourner de notre ego à nous, certainement plus, qui est vanité, pour glorifier Dieu seul. Parce que se tourner vers notre ego, ça c'est l'idolâtrie. Le principe de l'idolâtrie, c'est ça, c'est se tourner vers nos idées, qu'on transforme en idole et qu'on adore. Mais en fait, c'est s'adorer soi-même, l'idolâtrie, quels que soient les éléments de l'idole en question, qu'ils soient virtuels ou physiques, etc. Mais adorer Dieu, c'est vraiment lui rendre un culte qui lui est dû. Et expérimenter la joie de sa présence, se réjouir dans la louange, se réjouir de ses grâces, se réjouir de ses merveilles, se réjouir de son amour. Cette joie qui est profonde. Et il faudrait vraiment que dans nos cultes, et d'ailleurs c'est le cas, mais vraiment que vous sentiez libre que cette joie s'exprime. Cette joie profonde s'exprime. Cette joie authentique s'exprime parce qu'elle est contagieuse. Vous ne croyez pas que le monde aujourd'hui a besoin de joie? Je ne sais pas qui disait hier, parce qu'il y en a plusieurs qui parlaient au micro, que je ne sais plus ce qui d'ailleurs précisément ce qui a été dit concernant les antidépresseurs. Ah oui, c'est un garçon qui faisait du tam-tam là. C'est Étienne, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'il disait que en ce moment double. Ouais, en octobre-novembre, oui, parce que il y a plus de moins de soleil et tout ça. Il y a la consommation d'antidépresseurs en France qui augmente considérablement, ou qui double en tout cas. Alors, est-ce que vous avez besoin d'antidépresseurs? Eh bien, la recette, c'est la joie. Alléluia. La joie du Seigneur est la joie du Seigneur est the joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur. Voyez-vous, si vous voulez faire des économies dans votre budget médicamenteux, eh bien, rentrez dans la joie du Seigneur. Il sera votre force. Elle nous porte, même physiquement, la joie, enfin c'est prouvé, que la joie est vraiment un élément absolument puissant pour la santé. Alors l'adoration, donc le but de l'adoration, on a déjà vu que c'est le but de l'homme, et l'adoration n'est pas simplement de chanter des louanges au Seigneur. Je vais vous choquer un petit peu, mais c'est très important ce que je vais dire, parce que vous allez comprendre la dimension de l'adoration. C'est pas que chanter des louanges, pas que venir à une réunion, ou même chez vous, de chanter, de glorifier le Seigneur, de magnifier le Seigneur, bien que ce soit très important, parce que ça nous détourne de nous, ça nous détourne vers qui il est, Je suis celui qui suis, qui est, pour l'éternité. Et en le contemplant, bien sûr, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, magnifiez le Seigneur, louez le Seigneur. Élevez son nom, comme nous le faisons dans les moments de louange et d'adoration, c'est important. Mais ce n'est pas tout ce qui concerne l'adoration. C'est un élément important, mais pas tout. On va voir ce que c'est que vraiment l'ensemble de l'adoration en allant dans Genèse. Alors pourquoi on va dans Genèse? Eh bien, parce que dans Genèse, d'ailleurs Jésus a cité la Genèse, hein, c'est pas des mythes, hein, comme on l'a entendu dans des conférences de notables, ce n'est pas des mythes. La Genèse, c'est une parole révélée sur les origines, sur comment Dieu a conçu la création, comment Dieu a conçu l'homme et la femme, comment il pense qu'ils doivent être. Parce que l'homme et la femme sont issus de la pensée de Dieu, de l'idée que Dieu se fait de la créature et de la création. Et nous avons besoin de connaître cette intention et cette pensée. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 1er, verset 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Et chapitre 3, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir, etc. Si nous regardons l'ordre de la création, hein, il y a plusieurs ordres. Hein. Alors, l'homme est préoccupé par l'ordre, enfin, l'ordre là, en général, l'ordre politique, l'ordre cosmique, etc. Là, on a l'ordre de la création. Comment Dieu a créé la création avec un ordre, avec une destinée, avec une pensée, avec ce que Dieu a voulu pour l'humanité. Donc, dans cet ordre, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes. D'abord, la relation. La relation entre l'homme et Dieu. Dieu a voulu cette relation. Et s'il n'y a pas cette relation, eh bien, il n'y a plus de sens à l'humanité. Et c'est parce que l'homme, souvent, adopte une religion qui est un ensemble de rites, un ensemble de choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, etc., que même les gens religieux, bah, ils cherchent autre chose parce qu'il leur manque cette relation. Ce qu'il faut, c'est arriver à une relation avec Dieu. Donc ça, c'est le premier élément de l'ordre. Et le deuxième élément très important, je pense que vous l'avez compris dans la lecture, c'est le fait de dominer sur la nature et sur la terre, particulièrement les poissons, les oiseaux, le bétail, toute la terre, ensuite, etc., sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la domination. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour pas mal comprendre la domination, parce qu'en particulier en France, on est très hostile aux mots, hein, ce que ça appelle derrière le mot domination. Hein, on voit le pouvoir absolu, hein, du roi, hein, Louis XIV, qui dominait. Voilà. Donc on est très réfractaire au mot domination. Mais domination, bon, j'ai des gens là, qui viennent de Vaud, donc hein, ils pourraient être beaucoup plus calés pour moi que moi d'expliquer certaines choses, mais c'est aussi le mot superviser. Supervision, hein, dominer, superviser, c'est en fait gérer, enfin, c'est plus que gérer, hein, c'est vraiment prendre autorité sur la création que Dieu a créée au niveau de la terre. Hein. Je ne parle pas du ciel, parce que justement, si on n'a pas compris ça, il y a des chrétiens charismatiques qui rentrent dans des autorités spirituelles, et c'est là qu'ils ont des gros problèmes spirituels, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Le Seigneur ne nous a pas donné le ciel, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Il nous a donné la terre à dominer, à superviser. Et ça, c'est l'adoration. Également. Voyez. Donc l'adoration, le but de l'adoration, c'est de nous redonner ce que nous avons perdu à la chute. À la chute, effectivement, la domination qui était dans l'intention de Dieu, qui était de prendre autorité sur les éléments de la création. Regardez, Jésus a pris autorité sur le vent, sur la mer, sur les éléments, sur la mort, sur tout. Vous voyez l'homme parfait, celui qui est dans l'intention que Dieu avait au départ, Christ, est notre modèle. Et Christ dominait sur la terre. Il avait besoin d'argent, ben, il envoyait ses disciples qui, avec un poisson, ramenaient l'argent, etc. Il dominait sur les choses, vous voyez ce que je veux dire? Il était l'homme parfait, cet homme qui était dans l'adoration, il était en communion avec le Père et il était en autorité sur les éléments. Rien ne pouvait être insoumis à son autorité. Alors, ça, c'est l'intention de Dieu. C'est le but de Dieu. Et c'est ce but que Dieu restaure. Et dans l'adoration, quand on est dans l'adoration, c'est ce qui se produit. C'est que nous grandissons dans la relation avec Dieu. Hein, on connaît mieux le Seigneur. Et on grandit dans la domination, dans la supervision sur les éléments. C'est pour ça que je crois qu'en tant que chrétien, il devrait y avoir beaucoup plus de personnes qui exercent, bien sûr, selon le cœur de Dieu, cette domination. Et faire quelque chose de ses mains, enfin, quand je dis de ses mains, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de cérébral, mais ça se traduit toujours par une action de ses mains. Hein. Si quelqu'un va inventer une voiture et qu'il ne va jamais la faire, bon, ça ne sert à rien. Bon, ça reste dans un tiroir. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à dominer, à réaliser quelque chose. Et donc, ça, c'est de l'adoration. C'est dans le but de l'adoration, c'est de restaurer cela. Et nous sommes amenés à avoir une influence dans le domaine de la création au travers de ce que nous accomplissons. Parce que l'accomplissement aussi, ça donne une valeur à la personne et ça lui donne ce but que Dieu avait d'une réjouissance. Le but de l'adoration, c'est donc le rétablissement du but que Dieu avait pour la race humaine. Dieu veut rétablir la race humaine dans et au travers de l'adoration. Et le but, c'est de porter du fruit. Voyez-vous, Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons, etc. Alors, très souvent, là aussi, on a une vision très étriquée sur le fait de porter les fruits. Oui, il faut beaucoup d'enfants. Alors bon, les chrétiens ont fait beaucoup d'enfants. J'étais au Québec pendant un temps, je connaissais des familles qui avaient 18 enfants, 20 enfants, 21 enfants, bon, des grandes familles. Hein. J'avais mon meilleur ami qui s'est marié avec une fille, elle était 12 et la mère elle pleurait, comme une madeleine, comme si elle était morte le jour de son mariage. Elle a dit, oui, j'en ai plus 11. Elle était malheureuse comme les pierres. Mais vous voyez, on a la conception de multiplier, c'est de porter du fruit des enfants. Autant que ce soit extraordinaire d'avoir des enfants, de porter des enfants, d'avoir cette jouissance de procréer avec Dieu, de participer à cette création que Dieu nous a donnée. C'est une puissance quand même considérable, aussi une responsabilité. Mais il n'y a pas que ça. Porter du fruit, c'est aussi dans le business, c'est aussi dans nos capacités à gérer, dans notre capacité à manager, dans notre capacité à faire des choses. Et c'est porter du fruit, c'est-à-dire c'est ce que nous faisons, ça porte du fruit. Alors, voyez-vous, nous restreignons les choses. Non, Dieu voit cette dimension totale, et c'est pour ça que les jeunes étudient. Ayez cette connaissance qui est simplement une connaissance de la création de Dieu. Hein. Si vous faites des sciences, vous avez les apports de base pour connaître la création. Puis ça, c'est formidable, si vous le pouvez. Sinon, mais cherchez à aller le plus loin possible. Hein. Parce que ça fait partie de l'adoration. L'adoration, c'est rentrer dans ce plan que Dieu a pour l'être humain, qui est de dominer. Mais comme je le disais, pas dominer. Alors, il y a quelque chose d'important pour effectivement recaler ce mot dominer, dominer sous l'autorité de Dieu. Oui, effectivement, si on domine en dehors de l'autorité de Dieu, on arrive au pouvoir absolu. Clair. On domine par la force du poignet, on domine pour dominer, et donc ça devient une idole. Mais dominer sous l'autorité de Dieu, ça veut dire qu'on reste toujours dans l'humilité par rapport à la puissance de Dieu. Relationner avec Dieu, dominer sous l'autorité de Dieu, c'est le rôle, le pouvoir, le but de l'adoration dans sa totalité. Alors regardons quelques exemples bibliques. Si vous prenez l'exemple des patriarches, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, on ne peut pas faire toute l'étude ce matin, mais si on prend juste Exode chapitre 6, verset 20. Ah, j'ai dû me planter. Ça doit être Genèse. Verset 20. Ah, désolé, vous savez, j'ai fait ça après la louange hier, donc à 1h du matin. Donc, Exode. Verset 20. Bon, c'est pas la bonne référence, je m'en excuse, je vous donnerai la bonne si je la retrouve. Ce texte montre que les patriarches, hein, bien sûr, il y a beaucoup d'autres textes, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, qui le premier a fait cette rencontre en écoutant Dieu, la voix de Dieu, en obéissant à sa voix. Donc, c'est le début de l'adoration. Vous voyez, il n'a pas fait que louer le Seigneur, que magnifier son nom. Il a agi. Il a pris possession de cette terre, qui d'ailleurs, il ne l'a pas vue lui-même, puisque l'accomplissement du pays de Canaan qui a été donné aux Israélites est venu plus de 500, 600 ans après. Mais par la foi, il a agi et il a pris possession de la terre que Dieu l'a donnée. Il a dominé. Isaac également, vous le voyez dans sa vie, qu'il a dominé, qu'il a pris les puits, il s'est établi, il a établi sa famille, etc. Et bien sûr, Jacob. Alors Jacob, vous vous rappelez cet exemple? Quand il revient pour rentrer dans la terre promise, à Péniel, où il a cette vision de l'échelle de Jacob, hein, l'échelle sur laquelle il y a des anges qui montent et qui descendent. Vous voyez, cette relation entre Dieu et l'homme, il est très clair dans cette vision. Et là, Jacob est transformé. Il est transformé, c'est un être différent quand il sort de cette expérience. Et il va rencontrer son frère et il est changé. Et là, il peut prendre possession de ce pays pour en faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et donc l'expérience des patriarches, déjà, c'est le début. Et à chaque fois, ils construisent des autels. Et l'autel, c'est l'endroit de la rencontre avec Dieu. L'autel, bien sûr, c'est là où on apporte le sacrifice, la victime, là où nous apportons notre corps vivant pour le Seigneur. Mais c'est là où l'on rencontre Dieu. C'est là où il y a l'homme qui rencontre Dieu. Il rencontre ce face-à-face qui le transforme et qui le change. Si nous allons vers Moïse, alors j'espère que là j'ai les bonnes références, Exode 3, 6 à 12. Je vais lire ces versets. Donc Dieu s'adresse à Moïse. Il dit, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittiens, les Phérésiens, les Amoriens, les Hittiens, les Jébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Et Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Quel était le but que Dieu a assigné à Moïse? Quelle était la tâche, la mission qu'il a reçue? C'est d'emmener le peuple à la montagne. C'est d'emmener, de sortir le peuple d'Égypte, de le libérer, d'emmener le peuple à la montagne. Emmène ce peuple à la montagne. Il le dit plusieurs fois. La montagne de quoi? De Sinaï, bien sûr. La montagne du Sinaï. Ça, c'était la mission. Moïse, bien sûr, va dire, mais qui suis-je? Seigneur, attends, t'as vu ce que j'ai fait, je suis capable de faire, c'est n'importe quoi, je passe pour quoi, tu me prends moi. Seigneur dit, c'est pas ton problème. Ta mission, tu prends le peuple et tu l'amènes à la montagne. Moi, je m'occupe du reste. Je m'occupe de tes ennemis, je m'occupe de tout ça, moi je t'appelle. Vous voyez, il faut que ce soit très clair. Dans l'adoration, nous avons une mission, nous avons une tâche, c'est d'obéir. Le Seigneur fait le reste. Et j'aime bien Mike Bickle qui a fait la maison de prière, là. Il a fait une alliance avec Dieu parce que Dieu lui a demandé ça. Hein. C'est très particulier, hein. C'est presque mondialement assez authentique. Mais il a, pendant 12 ans, il n'a pas voulu le faire. Il a dit, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est pas possible. Il a dit, bon, je fais un contrat avec toi, Seigneur. Moi, je fais tous mes efforts pour faire ce que tu me dis, mais toi, tu t'occupes des ressources. Tu ne t'occupes pas des ressources, des gens et tout ça, moi, j'arrête. Et je crois que c'est bien, c'est important, c'est Moïse. Moïse, il sentait qu'il n'était pas du tout capable d'affronter Pharaon, d'affronter son passé, il était grillé, enfin, tout ce qu'il a fait, etc. Et même vis-à-vis de son peuple, il n'était pas accepté. Le Seigneur a dit, t'occupe pas, tu vas et tu les emmènes à la montagne, où ils me rendront un culte. On est dans le culte, on est dans l'adoration. Je serai avec toi, je te conduirai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Puisque c'était ça l'objectif de Dieu. Que s'est-il passé au Sinaï, montagne de Dieu? Alors, j'écoute les réponses. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï? Vous connaissez votre Bible? Pardon? La loi? Combien de temps ça a duré la loi pour la recevoir? 40 jours? Tout le monde est d'accord avec ça? 2 fois 40 jours? Oui, parce qu'elle était brisée, c'est bien, 80. Vous n'êtes pas loin, c'est 90 jours. Mais bon, à 10 jours près, c'est 90 jours. Mais vous oubliez une chose, c'est que Moïse n'est pas resté 90 jours sur la montagne. Il est resté 18 mois, 1 an et 3 mois. 15 mois. Excusez-moi, pas 18, c'est 15. C'est 1 an et 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 mois? Je vois Claire là qui me regarde. Vous avez une idée? Sur le Sinaï. Dieu a dit, prends le peuple et amène-le sur la montagne. Il y a bien une raison. Si, vous savez, il faut bien voir l'intention de Dieu. C'est important de la comprendre. Dieu voulait les emmener au Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï, en dehors de la loi? De la réception des tables de la loi. Il s'est passé autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais bon, ça c'est l'aspect négatif, mais l'aspect positif, bon, effectivement, il est tombé dans l'idolâtrie. Non, mais tu décris la condition humaine. Mais le but de Dieu pour le Sinaï, c'était quoi? En dehors de la loi qui, effectivement, était reçue. Il y a une deuxième chose. Oui, bien sûr, on est dans l'adoration. Pardon? Oui, c'est bien ce que tu as dit hier, justement, et peut-être qu'il faudra le redire. Mais, non, mais, vous le savez. C'est le tabernacle. Ah oui, c'est la réception du tabernacle. Il y en a qui connaissent le tabernacle? C'est quoi le tabernacle? C'est la tente de la rencontre. C'est celle qui a été établie dans le désert. Et c'est à partir de là que la tente a été établie et qu'il est allé avec eux. Le temple de Jérusalem, attendez, c'est là qu'il y a le grand conflit actuellement entre les Palestiniens et les Juifs. C'est qui est-ce qui va adorer sur ce temple où il y a la mosquée d'Omar? Là, vous voyez, on est tout à fait dans l'actualité. Hein, c'est le tabernacle. 15 mois, j'en veux pour 18 mois, c'est pas possible. 15 mois pour la loi et le tabernacle, et surtout le tabernacle. Et c'est quoi le centre, enfin l'idée du tabernacle que Dieu avait, c'est quoi? C'est la conception du tabernacle, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est la relation. Dieu a dit, je me prends un peuple et je veux demeurer avec lui, je veux une relation avec lui. Voyez-vous, le souci de Dieu, c'est une relation, c'est de demeurer, c'est d'habiter au milieu d'eux, et de parler. Dieu parlait à partir du sanctuaire, à partir du tabernacle, hein, qui était dans le lieu très saint, et il parlait au peuple. Hello, vous me suivez? Ça, c'est l'adoration. On est dans l'adoration. Et le culte, Dieu a dit, je veux libérer mon peuple parce que je vois qu'il est dans la souffrance, mais pour m'apporter un culte. Pas pour leur faire un voyage dans le désert du Sinaï, pour les amuser, mais c'est pour qu'ils m'amènent un culte, pour qu'ils m'adorent, pour que je puisse les transformer, pour qu'ils puissent dominer. Et la domination qui était prévue, c'était le pays promis. Je vous donne ce pays, coule de lait et de miel. C'était la domination, c'était la restauration du plan initial de Dieu pour son peuple. Alors, donc, vous voyez, la domination, ça passe par cette rencontre, le tabernacle de Dieu que Dieu a donné à Moïse, a donné à son peuple au travers de Moïse, pour qu'il soit établi et que Dieu puisse être là, demeurer et parler au peuple. Dans 1 Pierre, au chapitre, là on va très vite, mais on survole un peu les questions théologiques, mais 1 Pierre le dit d'une autre manière, notre but. Il dit, vous êtes une race élue. D'abord l'élection. Qui est-ce qui ici a mérité d'être la race de Dieu? Personne. Nous sommes élus. Dieu nous a appelés, nous a choisis. C'est un privilège. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Que veut dire sacerdoce royal? J'écoute. Sacerdoce, c'est quoi? Ça renvoie à quel mot? Sacré. Mais encore, qu'est-ce qui est attaché? Service, oui. Et quelle est la fonction du service du sacerdoce? C'est les prêtres, ou sacrificateurs, si vous voulez, dans l'Ancien Testament. Donc la notion de prêtre, vous serez des prêtres à toujours dans le service de Dieu. Se réjouir dans le Seigneur pour toujours, c'est être des prêtres, c'est-à-dire servir le Seigneur. Vous n'aimez pas servir un maître qui est extraordinaire? Vous préférez servir Satan, qui, bon, je joke, hein, je sais que c'est pas vrai, mais les hommes, c'est ce qu'ils font. Ils préfèrent servir Satan, qui est le prince de ce monde. Bien sûr, ils n'en sont pas conscients, c'est pour ça que Dieu veut nous utiliser pour leur donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent changer de maître. Mais ce maître, en le servant, il nous bénit, il nous change, il nous transforme, il nous redonne notre destinée initiale, il nous donne notre but, il nous donne ce pourquoi nous sommes créés, de l'adorer, de le servir et de dominer sur pas d'être dominé, mais de dominer sur les sujets. Ça, c'est l'adoration. Voyez-vous, ça, c'est le but de Dieu. Donc, sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est le service de Dieu en tant que prêtre. Et royal, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les rois? Ben, ils règnent. Ils règnent. C'est ça l'adoration. Sacerdoce royal. Vous êtes là pour être des rois, enfin des rois sous des princes, oui, sous l'autorité de Dieu. De dominer sur les choses. D'être au-dessus des choses, pas en dessous. Oui. D'avoir cette capacité à gérer les choses de cette terre. L'intention de Dieu, dans tout son plan de rédemption, c'est de nous restaurer dans cette intention initiale. Donc, vous voyez que l'adoration, c'est pas que du chant. L'adoration, c'est pas simplement louer le Seigneur. L'adoration, c'est pas simplement magnifier son nom, ce qui est absolument fondamental et extraordinaire. Il faut le faire. Mais l'adoration va plus loin. L'adoration veut dire transformation. Veut dire être transformé de gloire en gloire pour retrouver eh bien, l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons au début de son intention. Dans Exode, et on va terminer là-dessus, Exode 6, non j'ai encore un autre verset, Exode 6, 6 à 8, nous avons un peu le processus hein, de l'adoration. Exode 6, 6 à 8. C'est pourquoi dit aux Israélites, donc c'est toujours Moïse, hein, je suis l'Éternel, je vous affranchirai, d'abord affranchissement, la vérité qui affranchit, hein, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude, délivrance, à laquelle vous êtes soumis. Je vous rachèterai, rédemption, rachat, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés, à la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Voyez-vous ? Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel, pour que vous puissiez bénéficier des fruits du dé et du miel qui sont dans ce pays et que vous puissiez dominer dans ce pays. Amen. Voyez-vous, l'adoration. Et dans Jean, au chapitre 4, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, et au verset 23 et 24, on lit ceci. C'est le passage de la Samaritaine que vous connaissez très bien. Mais l'heure vient, dit Jésus, c'est maintenant, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit ici, eh bien, désigne la partie la plus profonde de notre être. Il y a le cœur qui est bien sûr notre centralité, mais l'esprit va plus loin. L'esprit, c'est ce que Dieu place en nous pour le connaître. C'est notre être le plus profond. Lorsque nous marchons en esprit, nous devenons ce pour quoi Dieu nous a destinés. Et c'est pour ça, l'apôtre dit, marchez par l'esprit et pas par la chair. Marcher par l'esprit, c'est vraiment nous laisser transformer de l'intérieur dans le plus secret de nos cœurs par cette nouvelle naissance qui nous a donné la capacité d'être en relation avec Dieu. C'est la véritable vie qui agit en nous. Adorer en esprit et en vérité. On a parlé de la vérité ce matin et le Seigneur, c'est bien ce qu'il fait. Il faut être en vérité selon la parole de Dieu. La parole est la vérité. Et selon l'ordre de la création, ça c'est la vérité. Moi, j'aime bien dire, et je le pense profondément, c'est que la vérité et la réalité sont les mêmes choses. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu virtuel qu'on trouve sur l'ordinateur parce que quelqu'un l'a programmé. Dieu est une personne réelle. Il y en a qui croient ça ici? Dieu a créé des choses réelles. Il y en a qui croient ça ici? Parce qu'il y a tellement de virtuels maintenant, on ne sait plus, hein. On ne sait même plus si l'homme est marché sur la Lune. Il y a des qui disent non, ça a été inventé, etc. Enfin, vous voyez, la virtualité, l'illusion, Satan, c'est l'illusionniste par excellence. Il peut vous faire entrer dans des scènes d'illusion qui sont fausses. Mais Dieu est vrai. Et quand on cherche la vérité, on trouve la réalité. Et quand on cherche la réalité, on trouve la vérité. Le vrai, c'est le réel. C'est ce que Dieu a fait. Bien sûr, il y a l'ennemi qui est là, et c'est ça qui nous trouble. Mais oublions l'ennemi, nous sommes dans le réel, dans la vérité. Et quand nous sommes dans la vérité, dans le réel, eh bien, nous pouvons réellement adorer le Seigneur. Le mensonge, c'est synonyme d'illusion. Tout ce qui est illusion et mensonge, faux semblant, réalité transformée. Et très souvent, nous transformons notre propre réalité pour qu'elle soit plus agréable à accepter. Mais il faut qu'un jour, comme ce matin le Seigneur nous l'a conduit, eh bien sortir dans la réalité, même si elle est difficile à accepter. Mais c'est que la réalité qui peut dans laquelle nous pouvons vraiment exercer l'adoration. Parce que Dieu n'a pas peur de réalité, Dieu la transforme et change tout ce qui était mal en nous en bien. Les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui retournent à l'origine dans le but de leur destinée, dans cet homme originel qui entend Dieu lui parler. Nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler. Et très souvent, quand nous sommes dans des blessures, nous n'entendons pas Dieu. Et beaucoup de chrétiens me disent « mais j'entends pas Dieu ». Oui. Parce que si vous êtes rempli de blessures, vous ne pouvez pas entendre Dieu. Vous entendez vos blessures, vous entendez vos craintes, vous entendez toutes sortes de choses. Mais rentrer dans l'adoration, c'est entendre Dieu nous parler. C'est obéir à sa voix. C'est obéir à sa voix. Et dominer ou superviser la terre pour porter du fruit. Je répète, l'adorateur, c'est celui qui entend Dieu lui parler, qui obéit à sa voix, qui domine ou supervise sur la terre et qui porte du fruit. Les vrais adorateurs vivent en pleine lumière par rapport à Dieu, par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres. Et c'est ainsi qu'on les reconnaît. Les vrais adorateurs, il n'y a pas d'ombre. Ils sont transparents, ils sont clairs, ils sont nets, on le sent. Et nous devons devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu voit au travers de nous, vous savez. Dieu connaît toutes choses. Et parfois, il y a des temps où le Seigneur agit, et j'aime bien le témoignage d'Annie, Stéphane, qui est avec nous ce matin. C'est bien de pouvoir communier ensemble, où elle a pu avoir un temps, jeunesse en mission. Le Seigneur lui a parlé, et elle est transformée. Elle est changée. Nous avons besoin tous de ce temps, à un moment ou l'autre. C'est vrai que nous résistons parfois. Mais quand ça se passe, nous devenons des vrais adorateurs. Nous arrêtons les faux-semblants, les choses qu'on met devant, là, pour faire une réalité virtuelle. Non, les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité.